Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait « Georges Andermatt, 37 rue de Berry ». Qu'est-ce que cela signifiait ? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant mail coach, automobile, écurie de course. Ses réunions étaient très suivies et l'on citait Madame Andermatt pour sa grâce et sa beauté. Serait-ce le nom du mort ? Murmurai-je. Le chef de la sûreté se pencha.
« Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. »
« Mais alors pourquoi cette carte ?»«
Vous avez le téléphone, monsieur ?»«
Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. » Il chercha dans l'annuaire et demanda le 415-21.
« Monsieur Andermatt est-il chez lui ?» Veuillez lui dire que M. Dudouy le prie de venir en toute hâte au 102 du boulevard Maillot. C'est urgent.
20 minutes plus tard, M. Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui,
« Étienne Varin. »
« Vous le connaissiez ?»«
Non, ou du moins oui, mais de vue seulement. »«
Son frère, il a un frère ?»«
Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. »«
Où demeure-t-il ?»«
Les deux frères demeuraient ensemble, rue de Provence, je crois. »«
Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué ?»
« Nullement.
Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main, votre carte, avec votre adresse ?»«
Je n'y comprends rien. Ce n'est là, évidemment, qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. » »«
Un hasard, en tout cas, bien curieux, pensais-je. Et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvai dans les journaux du lendemain. » Et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qu'il a compliqués, après la double découverte si déconcertante de ce 7 de cœur 7 fois percé, après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais, contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune explication.
« J'ai dit ce que je savais, »
répétait-il.
« Que veut-on de plus ? Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends, comme tout le monde, que ce point soit éclairci. »
Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait et qui s'était dispersée après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité 6 ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que, pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution et que je m'efforçais de n'y plus songer. Mais Jean Daspry, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. « On va procéder en présence de l'empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom. Il s'appelle le 7 de cœur. Le 7 de cœur? Était-ce là rencontre fortuite? Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé? Mais un lien de quelle nature? Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. Qu'en savez-vous? Me disait Daspry. Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France qui fit alors tant de bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici, tel qu'il parut sous la signature de Salvatore. L'affaire du 7 de cœur. Un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a 10 ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Maillot un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de 2 individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait. Et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir vers 11h30. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude. Et généralement, il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable. Mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin? Louis Lacombe les a-t-il emportés? Sont-ils détruits? De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment? Nous n'avons encore pu l'établir. De même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignaient-ils qu'on ne leur demandât comment ils les avaient en leur possession? En tout cas, cette crainte n'a pas persisté. Et nous pouvons, en toute certitude, affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère. Et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le 7 de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison? Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. » Et un post-scriptum ajoutait « Dernière heure. Nous espérions à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition, document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits. De même que sans les plans, le document est inutile.